matinale des sports de ce mardi 5 juillet 2022 au programme du tennis, de la Formule 1 et du cyclisme bien sûr. On débute ces actualités sportives par le tournoi de Wimbledon qui est entré dans sa deuxième semaine. Deux Australiens sont toujours en lice, Nick Kyrgios et Hayley Tomljanovic se sont qualifiés pour les quarts de finale. Nick Kyrgios qui a battu l'Américain Brandon Nakashima en 5-7. L'Australienne, quant à elle, l'a emporté sur la Française Alizé Cornet 4-6-6-4-6-3. Hayley Tomljanovic qui a du mal à réaliser rejoindre les quarts de finale pour la deuxième fois de suite au tournoi de Wimbledon. Écoutez cet échange avec la journaliste sur le court juste après la victoire.
Firstly and most importantly, I can see how emotional you are. Are you all right?
Yeah, I didn't really think I could do it. So
it is absolutely incredible what you've just achieved today. Whenever you play Alizé, it is a battle and a half. Obviously, you've just said to me there that you weren't sure that you could do it again.
Why not? Just because from the get-go, I could tell her level was really high. I didn't know if I could keep up with my physicality. And I know she never goes away. She doesn't give up till the last point. And it's very tough to play against players like that.
Well, you did come away victorious. You're in your second consecutive Wimbledon quarterfinal, and that has not happened. Back-to-back quarterfinals at Wimbledon has not happened for an Australian woman since Jelena Djokic in 1999-2000. So that is an incredible achievement. So can you just tell me what kind of opportunity this is for you now?
I don't even know who I play next. But
do you want to know?
Sure.
Elena Rybakina.
Okay.
It's not the world number one this year.
Yeah. You know, after last year playing Ash, I think I can face anyone. Hopefully, you know, it's going to be a bit of a more of a contest tomorrow. But yeah, I think what I've learned from last year is that I have to bounce back really quickly because there's not a day off. And I think the experience that, you know, you have to move on quickly and forget about the positive emotions and just think about the next match is going to help me for tomorrow.
Après la défaite d'Alizé Cornet, cela signifie qu'il n'y a plus de Françaises sur le tournoi. Harmony Tan s'est elle aussi faite éliminer en 8e de finale par l'Américaine Amanda Anisimova 6-2-6-3. De son côté, Novak Djokovic s'est facilement hissé en quart de finale, tout comme Rafael Nadal. On écoute l'Espagnol numéro 4 mondial.
Yesterday have been a very beautiful thing. Share court with all these great legends of our sport have been a very emotional moment. And thanks to Wimbledon for that opportunity. The center court 100 years is something very, very special. And for me, just be part of this group of legends have been unforgettable. So very happy for that.
Formule 1 à présent avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est Ferrari qui l'emporte, 150 Grands Prix et enfin première victoire de sa carrière pour Carlos Sainz. L'Espagnol était parti pour la première fois également en pole position, il a réussi à conserver cette place au terme d'une course aux multiples rebondissements. On pense notamment au terrible accident dès le premier départ. La voiture de Gagnozu Alfa Romeo s'est complètement retournée après avoir heurté la Mercedes de George Russell qui venait elle aussi d'être touchée par Pierre Gasly. L'Alfa Romeo est venu percuter le mur de pneus avant d'être arrêté par le grillage au pied des tribunes. Zou a été transporté au centre médical, assis qu'Alex Albon, également impliqué dans l'accident. La course a été interrompue pendant près d'une heure, les deux hommes vont bien. Côté résultat, victoire de Carlos Sainz, donc Sergio Pérez de Red Bull et Lewis Hamilton Mercedes complètent ce podium. Et du cyclisme maintenant avec bien sûr le Tour de France qui a continué sa grande boucle. Dimanche a eu lieu la troisième et dernière étape au Danemark entre Vejle et Sødenborg. 182 km, une étape remportée par le Néerlandais Dylan Groenewegen. On l'écoute.
Yeah, it means a lot after all what happened. Yeah, also my family. With the loss of my grandfather, also with the born of my kid, but it was a hard time. Yeah, it means a lot, but yeah, I'm really happy with the victory and say thanks to all the people who helped me.
C'est la première victoire sur le Tour de France pour le Néerlandais après son terrible accident avec Fabio Jakobsen au Tour de Pologne. Et c'est aussi la première victoire de l'équipe australienne Bike Exchange GECO dans ce Tour de France. On écoute le directeur sportif Matt White.
Yesterday didn't go as we wanted to do, but you got to move on quickly. That's the secret of achieving anything in life and sport. And the boys didn't flinch an eyelid after yesterday and gave 110% commitment to Dylan. And obviously really, really happy that Dylan could finish it off and win on the biggest stage in our sport.
And now the next?
Next is get to our hotel as quick as possible, have a bit of recovery for the boys tomorrow, and then we start again with our third sprint opportunity.
Ce soir, le Tour est en France, hein, enfin, entre Dunkerque et Calais, 171,5 km, une arrivée sur le front de mer qui devrait profiter aux sprinteurs. Et pour plus de détails sur ce Tour de France édition 2022, eh bien, rendons-nous en France indirectement. Notre collègue Christophe Mallet est sur place. Il suit la course pour SBS, une interview signée Thomas Mercier.
C'est le 109e Tour de France. On retrouve Christophe Mallet qui est en direct depuis la France, depuis Lille. Bonjour Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ouais, depuis la France, depuis Lille. On est arrivé hier soir, très tard dans la nuit. On va parler de tout ça, vous allez voir.
Alors, quel effet ça fait de revenir après 3 ans sur le Tour ? Je suppose que vous devez être complètement excité. Ça va être le bonheur absolu de pouvoir enfin retrouver les cyclistes faisant le Tour de France en vrai avec SBS.
Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, presque tout a changé parce que depuis 3 ans, comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid. Donc, la vie de tout le monde a changé. Donc, pourquoi le Tour de France n'aurait pas changé également ? Donc, du coup, les protocoles sont toujours très serrés en France autour des coureurs. Je pense que c'est les équipes qui veulent ça. Et c'est surtout en train de se tendre. Presque au jour le jour, parce qu'il y a des cas de Covid qui pop un peu à gauche, à droite, ce qui fait que le Tour de France adapte un peu ses protocoles sanitaires. Pour vous donner une ordre d'idée, le public avant était autorisé, réautorisé pour la première fois depuis 3 ans, à aller au bus voir les coureurs en train de s'échauffer ou à la fin des étapes. Ça a été interdit après la première journée, parce que le nombre de Covid devenait trop important autour des coureurs. Donc, à partir de maintenant, ça va être aussi le jeu d'éviter de se faire contaminer par le Covid, aussi que de faire des reportages sur le Tour de France.
Le Tour de France a démarré très fort en dehors de ses frontières, à Copenhague, au Danemark, où il y avait d'ailleurs beaucoup de monde, n'est-ce pas Christophe ?
Sur l'étape, la première étape, donc sur le prologue, ils ont estimé qu'il y avait à peu près 1,5 million de personnes dans les rues de Copenhague sur un parcours de 13 km. Il faut savoir que la population de Copenhague, c'est à peu près 700 000 personnes. Donc, on peut même penser qu'il y avait deux fois la population de la ville dans les rues. Donc, énormément de touristes partout, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais, mais aussi beaucoup de Français. C'était très impressionnant à voir qu'il y avait donc pas mal de drapeaux français autour. La passion du Tour de France est vraiment là. C'est une vraie passion européenne. Une passion mondiale, mais c'est aussi une passion française. Et c'est vraiment super important que le Tour de France, justement, s'étende dans des pays voisins. C'est vrai que souvent, la réflexion, quand on dit « Oh, je suis à Copenhague pour le Tour de France », on rigole, on dit « Ah, le Tour de France à Copenhague ». Mais en réalité, tous les 2 ans, le Tour de France part à l'étranger, c'est une tradition. Et c'est aussi une façon d'aller exporter le savoir-faire français dans le cyclisme. Le Tour de France, c'est la meilleure, la plus grande course de cyclisme au monde. C'est peut-être le plus grand événement sportif régulier tous les ans, hein, les autres plus grands sports. Événements sportifs, on peut penser à quoi ? On peut penser aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde. Ça, c'est tous les 4 ans. Tour de France, c'est tous les ans. Hein. Donc c'est énorme. Et c'est vraiment beau à voir hein, quand on est français, de voir que c'est un produit qui s'exporte. C'est aussi la marque France qui s'exporte à l'étranger, en dehors donc, des frontières de l'Hexagone.
Alors justement, pendant un mois, jusqu'au 24 juillet, on va vivre avec vous sur SBS, le programme en français, un peu les coulisses aussi du Tour de France. Je sais que votre rythme pendant les 20 prochains jours vont être juste fou, c'est-à-dire que vous voyez quasiment très peu le Tour, vous voyez le départ, vous voyez l'arrivée, entre-temps vous avez votre voiture, vous foncez. Comment ça se passe une journée type avec vous, Christophe Mallet ?
Ah, ça dépend de ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment 2 équipes au sein de l'équipe des sports d'SBS. Il y a l'équipe qui va au départ et l'équipe qui va à l'arrivée. Alors si on est au départ, du coup, on doit donc partir, attendre les coureurs partent. Et à partir de là, c'est un peu la cavalcade parce qu'on ne se rend pas compte hein, que les coureurs font peut-être 180 km en quelques heures. On se dit, bon, je vais les battre à n'importe quel moment avec ma voiture. Sauf que nous, on ne les suit pas. On doit faire des parcours itinéraires qui sont souvent beaucoup plus longs. Et si on connaît un peu les routes de France, bah, il n'y a pas forcément des autoroutes partout, même si le réseau autoroutier est bon. Donc du coup, ça veut dire que pour une étape de 180 km, moi, je vais peut-être en faire 380. Et 380 en voiture, bah, on ne bat pas forcément 180 km avec les coureurs. Vous le savez comme moi, Thomas, quand une étape va vite, ça va très vite. Et donc du coup, c'est souvent un peu la cavalcade pour arriver donc, sur la ligne d'arrivée à la fin de l'étape et commencer à faire les interviews des coureurs à la fin. Et c'est comme tout le monde arrive en même temps et qu'ils n'ont pas vraiment le temps pour vous après, bah c'est un peu la cavalcade de choisir à qui on va parler. Donc c'est vrai qu'étant SBS, bah, on a le choix de 9 coureurs australiens. C'est ce qu'il faut faire en priorité selon les habilités de chacun durant l'étape. Donc voilà, c'est un peu la cavalcade au fond. Et puis après, il faut éditer, publier, envoyer tout à Sydney. Enfin voilà, c'est pas tout repos, c'est vrai. Alors je vais pas me plaindre, hein, j'adore. Et puis après, bah, tout de suite après ça, il faut partir pour le prochain hôtel. Et souvent, le prochain hôtel, il est à une heure de route de où on est. Donc il y a encore pas mal de voitures derrière, avec tous les spectateurs qui quittent les endroits. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de cirque, de chaos total. Mais un peu à la France, c'est-à-dire qu'en fait, je vais employer le mot, hein, c'est le bordel, mais ça marche. Voilà, c'est un peu comme ça.
Et c'est là que les téléspectateurs peuvent se rendre compte aussi de tout ce qui peut se passer pour que le programme soit de qualité sur SBS Sport. Et ça offre aujourd'hui un programme qui permet de suivre au jour le jour le Tour de France. Et d'ailleurs, en parlant du Tour, on va parler un peu sport. Vous avez une idée de qui va pouvoir remporter le Tour, au moins va sortir du lot sur les prochaines étapes?
Il y a vraiment deux gros favoris. Il y a le double vainqueur Tadej Pogačar, qui est slovène. Lui, il a donc remporté les deux dernières éditions du Tour de France. Nous, c'était d'ailleurs bizarre de penser à ça, c'est qu'en fait, Tadej Pogačar, qui ultra domine le sport comme le Tour de France, ben nous, à SBS, on ne l'a presque jamais rencontré parce qu'il a brillé sur les deux éditions Covid. Donc c'est vraiment la question d'apprendre à le connaître parce qu'il ne nous connaît pas du tout. En fait, c'est important de connaître les coureurs pour avoir des meilleures interviews, pour avoir un meilleur contact avec eux. Et lui, Tadej Pogačar, qui est donc le super ultra dominateur, on ne le connaît pas du tout. L'autre personne qui peut être intéressante, c'est Primoz Roglic, qui lui donc, a échoué deux fois contre Tadej Pogačar. Il est slovène également. C'est un ancien champion de ski, de saut à ski. Il était champion national, il a même dû faire les Jeux Olympiques, je crois, en saut à ski pour son pays. Et il s'est reconverti en super ultra champion de cyclisme, du vélo. Il a gagné plusieurs fois la Vuelta, le Tour d'Espagne. Donc c'est un des gros prétendants au titre. Il a perdu donc deux fois contre Tadej Pogačar de très peu. Et je pense qu'il a un peu le nerf entre les dents, je pense, pour pouvoir essayer de le battre, justement, son acolyte slovène. Et puis derrière, il y a un podium à prendre. Et une des vraies possibilités, eh bien, c'est l'Australien Ben O'Connor qui court dans l'équipe AG2R Citroën, donc une équipe française, à culture française, une équipe qui est née dans les Alpes. Et Ben O'Connor, l'année dernière, sur le Tour, il a fini quatrième, donc vraiment au pied du podium, et très très près. Je crois que de mémoire, il devait être à 8 secondes ou 10 secondes du podium. Donc aujourd'hui, Ben O'Connor est très attendu, et l'équipe AG2R Citroën, ils savent très bien qu'ils ont une petite pépite dans leur main, donc ils font très attention à leurs coureurs. Par contre, chose est dite, ils sont très avenants avec nous, parce qu'on est là, le média australien. L'équipe AG2R est vraiment très sympa avec nous, on nous fournit beaucoup de contenu, donc vous allez entendre beaucoup, beaucoup parler de Ben O'Connor dans les prochaines semaines à SBS, parce que bah, lui, il peut aussi potentiellement créer la surprise et pourquoi pas aller gagner ce Tour de France. Ça serait le deuxième Australien de l'histoire à gagner le Tour de France après Cadel Evans. C'est surtout Ben O'Connor, il est de WA, il est de Perth, et je vais vous mettre simplement une petite puce à l'oreille, le vainqueur du Giro, donc du Tour d'Italie, Jai Hindley, il est aussi de Perth. Ils étaient ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, à imaginer ça, le vainqueur du Giro qui serait Jai Hindley, et derrière un autre vainqueur donc du Tour de France qui serait potentiellement Ben O'Connor, ensemble à l'école de vélo, etc. Ce serait quand même extraordinaire pour la petite ville de Midland, qui est juste en dehors de Perth.
Merci beaucoup, Christophe. Juste une petite aparté, vous parliez justement de ce coureur qui était champion de ski jusqu'avant, et c'est vrai que ces dernières années, on a tendance à voir des coureurs cyclistes qui viennent d'un tout autre domaine. Il y en a qui viennent quand même du cyclisme, et notamment du VTT, un qui vient du monde du ski. C'est quelque chose d'assez nouveau ou pas, de voir des sportifs qui arrivent à changer de sport?
Oui, alors ce qui se passe, c'est que je pense qu'il faut inverser la pensée. C'est qu'en fait, le cyclisme, il est vraiment au cœur de plein de sportifs. C'est en fait les skieurs, les coureurs, les joueurs de tennis. Le vélo, le cyclisme, c'est un sport tellement complet pour tout ce qui est cardiaque, par exemple, donc tout ce qui est au niveau de la fonction de la respiration et du cœur, que ben, en fait tous les sportifs quasiment font du vélo, parce que c'est aussi un sport sans impact. C'est pas un sport où on va courir, on va se faire mal aux genoux, on va se faire mal aux pieds. maintenant, c'est un sport qui roule, si je fais un mauvais jeu de mots. Et donc, du coup, c'est un sport qui est pratiqué par à peu près tous les autres sportifs. Donc, à un moment ou un autre, on est un ultra bon sportif dans un sport. On se dit, bon, on va attendre 2 minutes. Et en fait, je suis peut-être bon à autre chose. Et ce qui se passe, c'est que bah, peut-être les équipes aujourd'hui elles regardent un peu plus ailleurs que par regarder le trou de la serrure du coureur cycliste, etc., pour essayer de trouver la prochaine petite pépite. Et c'est ce qui s'est passé avec Primoz Roglic, totalement.
Merci beaucoup, Christophe.
Bah, pas de problème, on se reparle dans le courant de la semaine. Merci à tous. Merci Thomas et bonjour à tous.
Merci Christophe, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec Christophe Mallet pour faire le point à nouveau sur le Tour de France.
Voilà pour notre journal des sports de ce mardi 5 juillet. On rappelle que le Tour de France est à suivre tous les jours sur SBS, SBS Sport et SBS On Demand.